Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine sur Escale, à l'occasion de la 12e session de l'instance permanente des peuples autochtones auprès des Nations Unies, tour d'horizon des questions affectant les peuples autochtones en Afrique, avec Vital Bambanze, le président de l'IPAC, le comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique. Bonne écoute. L'Afrique a été à l'honneur au cours de la 12e session de l'instance permanente des peuples autochtones auprès des Nations Unies, tenue au mois de mai au siège de l'ONU à New York. Pour la première fois, non seulement la session a été présidée par un autochtone africain, mais une partie des travaux se sont concentrés spécifiquement sur le sort de près de 50 millions d'autochtones en Afrique. En Afrique, le terme « autochtone » est basé sur les droits de l'homme et la préservation de modes de vie et de traditions culturelles fortement rattachés à des terres précises. La plupart des autochtones en Afrique sont des bergers, des chasseurs-cueilleurs, nomades et semi-nomades. Ils sont confrontés à de multiples difficultés, dont la spoliation de leurs terres, territoires et ressources, l'assimilation forcée au mode de vie des groupes dominants, la marginalisation, la pauvreté et l'analphabétisme. Pour en savoir plus sur les revendications et l'expérience des autochtones africains, j'ai rencontré Vital Bambanze, président de l'IPAC, le comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique.
On peut dire que les peuples autochtones sont localisés partout en Afrique selon différents modes de vie. Par exemple, il y a des chasseurs-cueilleurs qui sont en Afrique australe, en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Il y a des pastoralistes qui peuvent se localiser facilement dans les régions de l'Afrique de l'Ouest comme les Touaregs. Il y a aussi en Afrique de l'Est, les Maasai en Tanzanie. Il y a les Amaziques en Afrique du Nord. Donc, ils sont localisés partout sur le continent africain.
Est-ce qu'ils ont des défis communs, des difficultés communes que vous êtes venu justement en tant que président de l'IPAC représenter ici?
Les défis sont communs parce qu'il y a d'abord le problème de reconnaissance de droits des peuples autochtones au niveau par exemple de la participation dans des instances de prise de décision. Ce sont des groupes qui ont été marginalisés, discriminés, qui n'ont pas connu l'éducation à la hauteur des autres peuples, dont la culture tend à disparaître parce qu'on veut les assimiler aux autres peuples et dont les États ne font pas des efforts particuliers pour reconnaître leurs droits en tant que tels, dont les droits à la terre et ressources naturelles, droits à la préservation de leur culture, droit à l'éducation spécifiquement dans leur culture, droit à pratiquer leur mode de vie traditionnel, la non-reconnaissance des connaissances traditionnelles. Ce sont tous ces défis-là qui font que les peuples autochtones sur le continent africain aient une sorte d'unité pour qu'on puisse défendre nos droits d'une façon justement positive, d'une façon pacifique, parce qu'on a vu que dans plusieurs cas, à voir l'histoire de l'Afrique, les gens qui se voyaient marginalisés ou discriminés ont pris les armes pour tuer les autres, pour défendre leurs droits ou pour réclamer les droits. Mais c'est ça la particularité des peuples autochtones. Nous défendons, nous réclamons nos droits d'une façon pacifique, sans verser le sang, parce que ça serait tuer un être humain, ce qui est contre même la religion chrétienne ou la religion musulmane, contre Dieu alors.
Alors, que répondez-vous aux gens qui estiment que la préservation d'une vie traditionnelle et de culture traditionnelle pourrait aller à l'encontre d'une, entre guillemets, modernisation ou d'un développement?
Je pense que parler de la modernité ou parler du développement, ça dépend justement du contexte. Nous aussi, peuples autochtones, nous ne sommes pas contre la modernité, nous ne sommes pas contre le développement, mais nous voulons la modernité qui tient compte de valeurs historiques des gens. On ne peut pas tout prendre pour la modernité, mais on ne peut pas tout abandonner pour nos cultures. C'est-à-dire, nous voulons une modernité inclusive qui inclut et les modes de vie traditionnels et les modes de vie modernes pour que chaque peuple ou chaque population se voit reconnue pour que les enfants puissent connaître comment nos ancêtres ont vécu justement dans une société moderne.
Alors comment est-ce qu'on peut envisager cette concordance entre vie moderne par exemple avec vie d'un chasseur-cueilleur?
Il y a d'abord l'éducation moderne. Il faut que cette éducation, justement, inclue les valeurs modernes et les modes de vie traditionnels. Il faut donner le temps aux enfants autochtones pour connaître leur histoire, connaître leurs traditions, connaître les ancêtres qui étaient voyants, qui ont développé, justement, les communautés modernes. Parce que nous savons que, par exemple, dans certaines sociétés, pour l'agrandissement des territoires, on utilisait les voyants guerriers autochtones. Il faut que ces gens-là soient intégrés dans l'histoire des curriculaires, dans les universités, dans des écoles, pour qu'on puisse d'abord reconnaître la valeur de ces gens-là. Il faut que les enfants puissent aussi, malgré leur faiblesse au niveau nom et au niveau politique, puissent savoir qu'il y a eu parmi la société, parmi le groupe autochtone, des personnes qui se sont fait démarquer. Et cela peut inspirer les enfants autochtones à voir qu'ils peuvent aussi faire mieux que la reconnaissance des peuples autochtones comme des sous-hommes ou des personnes qui ne puissent rien. Aussi, par exemple, si on veut développer la médecine, il faut aussi tenir compte de la façon dont les peuples autochtones se soignaient. Il faut aussi le partage équitable des avantages découlant, par exemple, de l'utilisation des connaissances traditionnelles, des ressources naturelles. Cela ferait que les peuples autochtones aussi bénéficient de leur protection de l'environnement qu'ils ont préservé depuis longtemps.
Alors vous êtes là en tant que président de l'IPAC, donc avec une teneur panafricaine, mais vous êtes aussi impliqué au niveau local au Burundi. Alors est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu de votre expérience locale? Comment se fait-il que vous vous êtes engagé justement pour la revendication des peuples autochtones?
Tout d'abord, moi, quand j'ai grandi, quand j'étais à l'école primaire, j'ai vu que d'abord être en Moutoua était un défi, c'était une sorte d'injure. Quand on a grandi, on allait à l'école secondaire, à l'armée, à l'université, même au niveau de l'emploi, on voyait que toujours être à Moutoua était un problème. Et quand on circulait, quand on allait dans les villages autochtones, tous les gens, tous les batois se voyaient comme inférieurs. Et même il y avait beaucoup de gens parmi nous qui ne voulaient pas accepter leur identité. Ce qu'on a fait au niveau national, c'était d'abord de développer dans les mémoires de tous les batois qu'être à Moutoua n'est pas un défi, mais que c'est ça qui nous fait citoyens burundais comme des Hutus et des Tutsis. En créant notre organisation, alors c'était pour d'abord la formation et la sensibilisation des batois pour qu'ils puissent se sentir fiers d'être ce qu'ils sont et préserver leur culture, défendre le droit terrien, droit à la participation aux instances de prise de décision, tout justement en inspirant et en sensibilisant les autorités nationales qui, justement, nous félicitons au niveau du Burundi, ont pu faire quelque chose de différence parce qu'au niveau même de la Constitution nationale, on a reconnu la participation des batois dans des instances de prise de décision, dont le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a aussi dans des hautes sphères comme l'Assemblée nationale de l'Afrique de l'Est. Et il y a aussi la prise de conscience des peuples autochtones qui sont allés massivement à l'école tout en reconnaissant leur identité et en s'affirmant comme peuple ayant les mêmes droits, ayant les mêmes capacités comme les autres.
Vous avez parlé de difficultés en allant à l'école primaire et secondaire. Vous avez parlé de prise de conscience. Quel a été le déclic pour vous? D'où puisez-vous cette force, cet élan et cette vision pour justement revendiquer votre identité? Comment ça s'est fait?
Je dirais que j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui reconnaissait qu'être à Moutoua était être en Burundais, donc Mon père a pu nous envoyer, mon frère et moi, à l'école. Et il suivait de près comment on suivait les études, si on pouvait suivre. Malgré que chaque matin qu'on allait à l'école, on était battu par les autres enfants qui disaient qu'ils ne peuvent pas s'asseoir avec nous, que nous sommes des pions, nous sommes des personnes différentes. Ils nous empêchaient de boire de l'eau de la fontaine, on allait boire de l'eau des ruisseaux. Mais en grandissant, on a pu remarquer que nous devons justement étudier et être une source qui pourrait montrer qu'être à Moutoua, on peut avoir les capacités intellectuelles comme les autres. Et quand on est au champ de travail, on peut faire comme les autres. Ce sont ces chances que j'ai d'abord grandi dans une famille, puis suivi à l'école, puis développé un sens de promouvoir les autres. Parce que quand on a vu que les autres Batois ne vont pas à l'école, les autres sont marginalisés, on a pu déceler que s'unir en organisation, en association, ça peut amener beaucoup mieux nos forces. Et puis après avoir uni nos forces, on peut faire mieux à la différence d'une seule personne ou d'une seule famille.
C'est un sacré parcours avec beaucoup de réussite. Quels sont vos espoirs avec cette 12e session et avec cette demi-journée consacrée aux questions des peuples autochtones africains?
Justement, d'abord cette session, c'est la première qui est présidée par un autochtone africain. Et puis, justement, avec son influence en tant que président, il peut amener les autres décideurs au niveau des Nations Unies à comprendre la dynamique de la problématique autochtones sur le continent. Et puis, la demi-journée consacrée à l'Afrique va développer beaucoup plus de recommandations spécifiques sur le continent africain. Il y aura des décideurs, les représentants des États, les représentants des ONG internationales, les représentants de l'ONU, qui, justement, après, vont interroger les recommandations et demander aux décideurs africains, dont les représentants du gouvernement, les États, les ministres, à mettre en application ces recommandations selon les obligations de chaque ministère ou les obligations de chaque État ou les spécificités des peuples autochtones dans chaque pays.
Alors vous avez pu constater des évolutions et des réussites au niveau local et national. Est-ce qu'on en constate également par rapport aux recommandations qui ont pu être faites à travers l'instance permanente des Nations Unies?
Oui, on peut dire qu'il y a eu des évolutions, pas beaucoup au niveau des États, mais beaucoup au niveau des agences de l'ONU. On peut par exemple citer la Banque mondiale qui, dans son programme, a mis en place des programmes spécifiques pour les peuples autochtones. Et ces programmes sont obligatoirement intégrés dans les politiques nationales au niveau de développement. On dit, si vous décidez, il faut reconnaître les peuples autochtones d'une façon spécifique et intégrer des programmes de développement. Même en Afrique, je parle de l'Afrique justement. Aussi, il y a par exemple le FIDA. Il y a la Banque africaine de développement qui est en train aussi de développer des programmes spécifiques pour les peuples autochtones. Il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est un organe de l'Union africaine qui a reconnu la spécificité et l'existence des peuples autochtones sur le continent et lesquels peuples autochtones ont besoin d'un développement spécifique dans leur culture, dans leurs différences, dans leur diversité avec les autres.
Et c'est avec le courage et l'espoir de Vital Bambanze que se referme cette édition d'Escale, consacrée cette semaine aux droits des peuples autochtones d'Afrique. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Florence Westergaard et de Benji Candelario. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies, par podcast et sur Internet, en tapant radio.un.org/fr. radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.